C'est le journal de Florence Paracuellos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, quand la mémoire se perd au profit des selfies outrageants. Il y a 75 ans, Oradour-sur-Glane devenait un village martyr. Nous serons sur place dans un instant, où l'on réfléchit à la meilleure façon de préserver l'histoire. Faire couler son sang pour la bonne cause, appel aux donneurs. Les dons ont trop baissé, les stocks de sang sont au plus bas. À la une également, Renault-Nissan, la mauvaise passe. Le patron de Renault contre les réformes en cours chez le japonais est déstabilisé après les négociations avortées avec Fiat. Une marche silencieuse ce matin au Sable d'Olonne en mémoire des trois sauveteurs morts vendredi. Nadal invincible à Roland-Garros, 12 victoires, mais il reste modeste. Et puis, ils ont délibéré pendant plus de 4 heures hier soir avant de rendre leur verdict. Les 24 jurés du Livre Inter ont choisi. Et c'est vous, Riyad Satouf, président du jury, qui nous révélait le nom du lauréat. Le prix du Livre Inter 2019 est attribué à...
Arkady d'Emmanuel Bayamakhtam.
Bravo !
Bravo !
Allez ! Et on en parle évidemment à 8h20 avec la lauréate, avec monsieur le président Satouf, avec la vice-présidente Bétan et l'ensemble du jury qui est ici en studio à France Inter. Amis auditeurs, si vous voulez intervenir, 01 45 24 7000.
France Inter.
Que deviennent les lieux de mémoire des décennies après les faits qui s'y sont déroulés? Que voit-on quand on se baigne sur les plages du débarquement dont on célébrait la semaine dernière le 75e anniversaire? Que voit-on dans les décombres d'Oradour-sur-Glane aujourd'hui, dans ces ruines où 642 habitants du village ont été brûlés vifs ou fusillés par la division d'Asreich en déroute le 10 juin 44? La mémoire là-bas s'érode, sans guide pour la perpétuer. Alors qu'une cérémonie aura lieu aujourd'hui, les associations, Rémi Brancato, se demande comment la faire respecter.
À l'intérieur de l'église incendiée il y a 75 ans, Claude Milor, le président de l'association des familles de martyrs, décrit le massacre des femmes et des enfants enfermés par les SS.
Les nazis ont amené une caisse, ils ont mis le feu, ils ont tiré dans la foule, il y a encore des impacts de balles.
Dans le village figé depuis 44, il n'y a plus de guide, les visiteurs y accèdent librement et pour ne pas les laisser seuls, l'association veut depuis 2 ans installer des panneaux explicatifs.
Il y a plus de la moitié de la population qui visite Oradour sur plus de 300 000 personnes. Il y en a 170 000 qui viennent directement dans les ruines sans visiter l'exposition permanente du centre de mémoire.
Luc, sa classe de 3e et leur prof d'histoire, Philippe Gorce, visitent cette exposition.
Les flammes s'élevaient déjà dans le village.
On est vraiment frappé parce qu'on voit l'église, on marche sur le même sol.
Il y a de l'émotion. Ils en retiennent beaucoup plus qu'un cours.
Pour Richard Jezierski, le directeur du centre de la mémoire, trop de visiteurs désormais ne savent même pas où ils mettent les pieds. Alors il faut renforcer la pédagogie.
C'est fondamental afin que les gamins qui ne sont pas préparés ne déambulent pas n'importe comment. Comme il y a eu un scandale sur Internet, des gamins se prennent en photo dans des tenues oublala, c'est pas normal.
L'an passé, pour donner à voir l'ampleur du massacre, les portraits photos des victimes d'Oradour ont été affichés dans le couloir d'accès au village des martyrs.
Une cérémonie aura lieu aujourd'hui dans la nouvelle église du village, puis un cortège ira déposer des gerbes de fleurs sur les lieux des massacres.
Il est 8h04, prendre quelques minutes, Florence, pour donner son sang et sauver des vies.
Les besoins sont criants en cette fin de printemps. Les réserves sont au plus bas depuis 8 ans à cause des jours fériés du mois de mai, certes, mais aussi de la baisse des dons, d'où l'appel lancé par l'établissement français du sang, Véronique Julia.
Les stocks de globules rouges en ce moment ne sont qu'à la moitié de ce qu'ils devraient être. La photo pont du mois de mai, qui était particulièrement long cette année, le 1er mai ou le 8 mai tombant un mercredi, certains sont partis 5 jours. Les donneurs ont donc boudé la collecte qui s'en ressent. Pour bien faire, il faut 10 000 dons par jour en France. Mais si le stock peut être impacté aussi vite, c'est aussi parce qu'on manque de donneurs en général. 4% de la population française donne 1,7 fois par an en moyenne, quand pour être confortable, il faudrait qu'ils donnent au moins 2 fois. La jeune génération, surtout, relève l'établissement français du sang, viendrait une fois pour voir, mais sans renouveler l'expérience, ce qui est évidemment problématique. Rappelons que chaque don est fractionné en plasma, plaquettes et globules rouges et permettra tout à la fois de fabriquer des médicaments, d'aider un patient souffrant d'un cancer ou une maman qui vient d'accoucher et de faire une hémorragie, sans compter bien sûr les grands traumatisés qui ont subi une perte de sang massive. En tout, 1 million de patients ont besoin besoin de vos dons chaque année en France. Et les Français, quand il le faut, savent se mobiliser. Le 14 novembre 2015, ils avaient donné en un jour l'équivalent d'une semaine de dons en temps normal.
Là, c'est de faux sang qu'il s'agit, dont la statue de la place de la République a été aspergée samedi à Paris au cours d'une manifestation pour réclamer la fermeture des abattoirs. 6 militants antispécistes seront jugés ce matin en comparution immédiate.
Entre Renault et Nissan, ça se confirme, Florence, le temps tourne à l'orage.
Et oui, le patron de Renault vient d'écrire à son homologue japonais. Il menace de bloquer la réforme de la gouvernance de Nissan. Renault ne s'estime pas assez représenté dans les nouvelles instances imaginées pour tourner la page Carlos Ghosn. Ses représentants s'abstiendront lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 25 juin, avertit Jean-Dominique Senard. Jean-Dominique Senard en plein questionnement depuis l'échec de la fusion avec Fiat la semaine dernière. Le successeur de Carlos Ghosn s'est senti lâché par l'État, Maxime Debs.
La rumeur de sa démission a circulé ce week-end dans l'entreprise. Jean-Dominique Senard a peu goûté l'interventionnisme de l'État dans ce dossier Fiat, reconnaît un syndicaliste. Il a été passablement agacé à tel point qu'en interne, on s'interroge. La sortie de Bruno Le Maire samedi lors du G20 au Japon n'a sans doute pas été faite au hasard, décrypte un salarié. Lorsque le ministre dit que l'État pourrait réduire sa part dans l'alliance Renault-Nissan, il s'adresse aux Japonais d'un côté, certes, mais répond peut-être aussi quelque part au mécontentement de Jean-Dominique Senard, le diplomate Senard qui était, semble-t-il, prêt à foncer dans ce dossier Fiat, mais qui a donc été freiné par l'État actionnaire. Cet État qui a bien montré lors du dernier conseil d'administration qu'il ne prenait pas ses ordres de Renault. À la lueur de ce qui vient de se passer, d'autres se poseraient la question de leur légitimité, commente un fin connaisseur du dossier qui ajoute « Faire face à un tel désaveu, une telle claque de son actionnaire principal 3 mois seulement après son arrivée, on est en droit de se demander si ça vaut la peine de persévérer. »
Renault privé du marché iranien à cause des sanctions américaines. Avec d'autres, le constructeur a dû se retirer du pays cet automne. En guise de riposte contre Washington, Téhéran a décidé de ne plus respecter certaines des clauses de l'accord de 2015. L'agence de l'énergie atomique se penchera donc sur son cas à Vienne aujourd'hui, pendant que l'économie du pays s'asphyxie peu à peu. Les Européens ont bien élaboré un mécanisme commercial pour contourner les sanctions. C'était il y a 6 mois, Christian Chesneau, et depuis, il ne s'est rien passé.
C'est aujourd'hui une structure fantôme. Depuis sa création en janvier dernier, Instex, le mécanisme européen de troc avec l'Iran, n'a effectué aucune transaction commerciale. Pour les Européens, c'est un véritable fiasco diplomatique et économique, estime l'avocat d'affaires franco-iranien Ardavan Amir Aslani.
Instex, c'est devenu simplement une structure vide, une coquille vide, sans avoir le début de l'ombre d'un copec dans ses caisses, puisqu'il n'y a pas eu un euro qui a été transféré entre l'Iran et la France, l'Iran et l'Europe, l'Europe et l'Iran. En fait, aujourd'hui, les Américains, avec l'extraterritorialité de leurs droits, ont réussi à imposer leur façon de voir à l'ensemble de la planète.
Face aux pressions américaines, les sociétés européennes ont baissé pavillon. L'Iran est devenu un pays pestiféré, constate depuis Téhéran Mehdi Mirimadi, patron de la Chambre de commerce et d'industrie franco-iranienne.
Les grandes sociétés, ils ont peur de perdre le marché américain. Ils ont laissé tomber leurs partenaires iraniens. Peugeot sont partis, Renault ils sont partis, Total ça fait longtemps qu'ils sont partis. Même L'Oréal nous a lâchés. Les sociétés, ils ne répondent même pas aux emails. Ils ne répondent même pas au téléphone. Moi, je ne sais pas de quoi ils ont peur. De répondre, au moins.
Isolé commercialement, l'Iran est aujourd'hui contraint de revenir à une économie de contrebande.
À Hong Kong, des échauffourées ont éclaté à la fin d'une manifestation monstre hier. Plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues contre l'autorisation des extraditions vers la Chine portée par le gouvernement local. Projet de loi maintenu vient de faire savoir le gouvernement. Et puis au Soudan, où la contestation se poursuit, 4 personnes ont été tuées hier au premier jour d'un mouvement de désobéissance civile lancé pour pousser les généraux à remettre le pouvoir aux civils.
Il est 8h09, Florence. Ils prendront la mer ce matin au port des Sables d'Olonne, mais pas pour aller sauver des vies.
Non, sur leur bateau, les sauveteurs vendéens de la SNSM vont accompagner la marche silencieuse le long du littoral en hommage à leurs 3 camarades morts en mission vendredi alors qu'ils tentaient de sauver un pêcheur pris dans la tempête. Grande émotion depuis dans la famille des Vestes Orange. Benjamin Mathieu est allé à la rencontre des sauveteurs de la station de Talmont-Port-Bougenay dans le sud de la Vendée.
Veste orange, siglée SNSM sur le dos, Patrick Breton, le commandant de cette vedette deuxième classe de 1000 chevaux, met les gaz.
On n'est rien, on n'est jamais fort, la preuve.
Sauveteur depuis 35 ans, ce retraité est forcément très touché par la disparition de ses 3 collègues.
Quand j'ai vu le bateau retourner sur la côte, j'ai dit, J'arrête. Un jour, ce sera notre tour.
Mais pas question, en fait, d'arrêter.
C'est un engagement qui est très fort.
Le sauvetage, c'est une famille, une solidarité.
Ils pouvaient pas refuser la sortie. Là. Ils étaient obligés d'y aller. N'importe lesquels auraient fait pareil, la même chose.
Oui, c'est la 217, la présidente Louis Trichet, vous me recevez ?
Oui, je vous reçois fort et clair, fort et clair.
Sébastien Baudry sera avec ses collègues à bord de ce même bateau pour accompagner le long du littoral au sable, la marche silencieuse.
Oui, bien sûr. Et même s'il a fallu prendre ma journée, j'aurais pris ma journée pour y aller, quoi.
Mais pour ce sauveteur de 43 ans, père de deux enfants de 6 et 8 ans, ce drame fait forcément réfléchir.
Vous en avez rediscuté du coup avec votre compagne ?
Oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'elle m'aurait dit de ne pas y aller. Après, voilà, c'est un choix, quoi.
Patrick Breton et ses collègues portent fièrement les couleurs de la SNSM, le orange éclatant, qui peine pourtant à masquer leurs yeux rougis par le chagrin.
L'un est à l'hôpital, l'autre est mort hier à Lorient. Deux enfants percutés par une voiture en fin d'après-midi. Le conducteur et sa passagère ont pris la fuite à pied. Ils venaient de se soustraire à un contrôle de gendarmerie. Ils sont toujours recherchés. Être jeune militant des Républicains, c'est un peu, en ce moment, s'accrocher au bastingage par très gros temps. Défaite cuisante aux européennes, démission de Laurent Wauquiez, départ de Valérie Pécresse. Et ce week-end, défection de 72 élus locaux qui appellent à la réussite d'Emmanuel Macron. Dur, dur, quand on commence à s'engager politiquement. François Rosier est allé à la rencontre de jeunes LR du 17e arrondissement parisien.
Théo a 24 ans, il est engagé aux Républicains depuis 2012 et la défaite de Nicolas Sarkozy. Après les récents départs du parti, le sentiment qui domine chez lui.
C'est une incompréhension, notamment avec le départ de Valérie Pécresse. Elle a quand même plaidé depuis maintenant un an et demi pour le départ finalement de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est parti et elle part ensuite. C'est très difficile de la suivre dans un inconnu. Finalement politique.
Au départ de Valérie Pécresse s'ajoute celui de nombreux maires LR qui se défont de leur étiquette politique à un an des municipales. Aurélie, 32 ans et militante depuis 2007, a le sentiment d'avoir été trompée par ces élus déserteurs.
Je me demande si on n'a pas été considéré comme un portefeuille client électoral. On a des convictions, on a des idées, on a envie de les défendre. On a envie d'aider des élus à aller sur le terrain avec nos idées et on n'a pas envie d'en avoir honte justement. Ils ont une responsabilité, tous ces grands élus. Et je pense que partir, c'est aussi effectivement nous tourner le dos.
Pour autant, ces adhérents comptent bien rester chez les Républicains. Ils n'ont pas perdu leur envie de militer et de faire de la politique, comme l'explique Ayette, 19 ans et étudiante en droit.
Le challenge, c'est la politique. Donc quand on fait de la politique, on a envie de challenge, on a envie de débat, on a envie de toutes ces choses-là. Donc je pense que ça surmotive.
Tous les trois se projettent maintenant sur 2020, car la situation du parti représente aussi pour eux une opportunité de figurer, peut-être, sur une liste aux élections municipales.
Voilà, les Républicains qui se cherchent un chef. Fait une ligne, les conventions locales promises par Gérard Larcher commenceront dans 10 jours, d'abord dans les Hauts-de-France de Xavier Bertrand. Vous savez ce qu'on dit, Nicolas, après un dimanche de finale à Roland-Garros ?
C'est Nadal qui gagne.
Bah voilà, le tournoi de Roland-Garros se joue chaque année Porte d'Auteuil à Paris et à la fin...
Nadal gagne.
C'est Nadal qui gagne. 12e victoire de l'invincible espagnol hier. Et encore perdu pour Dominique Thiem. 12 victoires, c'est deux fois Borg. Raphaël Nadal, herculéen, comme titre l'équipe ce matin. Mais toujours aussi modeste au micro de Fabrice Abgral. D'autres viendront un jour prendre la relève.
Je me considère une personne.
Je me considère comme une personne plutôt normale, je suis certain qu'un autre pourra le faire. Alors c'est vrai qu'il faut avoir une conjonction de facteurs, de la chance aussi, et des qualités physiques indéniables, c'est sûr. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'on va pouvoir revoir cela un jour ? J'espère que oui, parce que les records sont là pour être battus. Lorsqu'on bat un record, on fait la promotion de notre sport, c'est toujours quelque chose de positif.
Bon ben bah voilà, rendez-vous l'an prochain pour une 13e victoire.
Et on termine, Florence, avec le mondial féminin de football. Il fait le plein, ça se confirme.
18 000 personnes à Grenoble pour voir gagner les Brésiliennes hier, 3-0 face aux Jamaïcaines. Certains ont même traversé la France pour assister à la rencontre. Ils n'ont pas été déçus, Antonin Carmerne.
Brésil-Jamaïque, c'est une des affiches les plus colorées du premier tour, la plus attrayante des rencontres organisées au Stade des Alpes, du vert et du jaune partout. Yann est venu de Paris rien que pour voir ça.
Il fallait que je fasse le déplacement, c'était un match à ne pas rater, quoi. Ça apporte le soleil, il y a du soleil à Grenoble, c'est Maracana avant l'heure, quoi. Ça s'ambiance, on sait que des deux côtés il y a de l'ambiance, c'est la fête, voilà. Le foot... La fête, tout est réuni pour avoir une bonne journée et avoir un beau match.
Dans les tribunes aussi, de nombreux expatriés brésiliens. Tainara, elle, n'a pas eu à faire beaucoup de route. Elle étudie à Grenoble.
Ça m'est rendu tellement contente de voir tout le monde ici. Tout le monde est en train de chanter, tout le monde dit « Hey, Brésil !» C'est trop bien.
Si sur le terrain, le Brésil domine largement, dans les tribunes, il y a match. des spectateurs bruyants et présents, près de 18 000 personnes.
C'est beaucoup quand même, après ça montre l'évolution du football féminin dans le foot.
Maëlle est une jeune footballeuse venue de Valence.
Quand on y pense, le football féminin c'était pas très connu et pas très coté, et l'évolution elle est quand même flagrante, donc c'est une très bonne chose.
Le Stade des Alpes accueillera encore 4 rencontres de cette Coupe du Monde, dont un 8e de finale le 22 juin, qui devrait lui aussi être à guichet fermé.
Voilà, et sachez que l'Angleterre a battu l'Écosse 2-1 et qu'aujourd'hui, on suivra attentivement les Japonais finalistes de 2015 face à l'Argentine.
Merci Florence. Les Japonaises, oui. Merci Florence Paracuelos.